Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler du Sahel, et plus particulièrement du Mali, dans le contexte de la fin de l'opération Barkhane, annoncée la semaine dernière par le Président de la République, et pour en évoquer les raisons et conséquences, notamment dans le cadre de la présence de plus en plus affirmée de la Russie, en particulier à travers le groupe Wagner, dans la région. J'ai le plaisir de recevoir deux grands habitués du podcast. Tout d'abord Wassim Nasr, journaliste à France 24, grand spécialiste de la région et notamment des groupes armés et des mouvements djihadistes qui y opèrent. Je peux rappeler que vous étiez notamment venu nous en parler plusieurs fois, mais notamment dans un épisode qui a longtemps été le record d'audience du podcast, consacré au djihadisme dans le Sahel. Ça, c'était à une autre époque, avant que Michel Goya et le général Yakovlev, et plus généralement la guerre en Ukraine, ne passent par là. Vous êtes spécialiste notamment de l'État islamique. Je peux rappeler que vous aviez publié un excellent livre sur le sujet, L'État islamique, le fait accompli, en 2016, chez Poulon. Donc bonjour Wassim, bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
Bonjour Macheveux, merci de m'accueillir encore une fois.
Et ensuite Maxime Audinet, chercheur stratégie d'influence et lutte informationnelle à l'IRSEM, que les auditeurs connaissent bien aussi, puisque vous êtes venu encore récemment, il y a quelques semaines, pour nous parler d'OSINT, de renseignements en source ouverte, à l'occasion d'un numéro de la revue Hérodote, que vous co-dirigiez sur le sujet avec Kevin Limonier. Mais je peux signaler que vous étiez aussi apparu il y a un peu plus d'un an dans une émission avec Emmanuel Dreyfus, autre chercheur à l'époque à l'IRSEM, pour un podcast sur ce sujet précisément, du retour de la Russie en Afrique. Et je pourrais signaler donc que vous avez très récemment fait paraître tous les deux une étude de l'IRSEM qui fait excellemment le point sur le sujet qui va nous occuper, la numéro 97, intitulée « La Russie au Mali, une présence bicéphale », évidemment librement consultable sur le site de l'IRSEM. Donc bonjour Maxime, bienvenue à nouveau dans le podcast.
Bonjour Alexandre, merci pour l'invitation.
Alors, je veux dire justement, il ne va pas s'agir du tout de refaire la mission de la dernière fois, qu'on avait appelée, je crois, « Bon baiser de Bangui », et qui faisait le point sur les initiatives croissantes de la Russie pour reprendre pied en Afrique depuis une décennie, par l'Égypte, en Libye, au Soudan, en Centrafrique, etc. Déjà parce que je crois qu'elle se réécoute très bien et qu'elle n'a pas pris une ride pour sa dimension historique, alors je mettrai le lien dans la description de l'épisode, mais bon, voilà, quand on fait des émissions un peu larges et un peu historiques comme celle-là, c'est pour qu'elle ne se périme pas, et je crois que c'est tout à fait le cas de celle-ci, sauf que quand on la réécoute, alors évidemment à l'époque l'idée c'était de faire le point sur les choses à ce moment-là, donc c'était en septembre 2021, un peu plus d'un an, et on passait en revue ces actions russes, notamment leur implantation en République centrafricaine, où on peut dire qu'ils avaient déjà à l'époque un rôle à la fois de protection du régime, et en même temps ils captaient un certain nombre des ressources naturelles de RCA. Mais vraiment, bon, on disait dans l'épisode que ah, voilà, ça c'est la Centrafrique, et limite on se tapait sur les cuisses en disant que bien sûr le Mali c'était hyper différent, et qu'on voyait pas bien pourquoi ni comment ils se retrouveraient à s'étendre vers l'ouest comme ça. Et c'est marrant, mais je crois que trois jours après l'enregistrement, on commençait à avoir des infos sur des accords possibles entre la junte malienne et le groupe Wagner, ce qui s'est évidemment largement amplifié depuis. Donc je crois que c'est probablement le moment de faire un point réactualisé sur la question, sur ce que cette présence russe est, sur ce qu'elle n'est pas, dans le cadre aussi du conflit ukrainien, qui est une partie certes distante, mais tout de même structurante de cette question, alors que le président Macron vient donc d'entériner le fait que l'opération Barkhane se termine. Je vais juste préciser qu'il reste quand même une présence militaire française dans la région, hein, notamment au Niger et au Tchad, mais ça aura sans doute un contour assez différent, et puis c'est un symbole fort, cette fin de Barkhane, qu'on entre dans une nouvelle phase avec d'autres acteurs pour gérer la problématique, notamment djihadiste, dans la région. Et donc, je veux dire, l'idée c'est vraiment de faire ce bilan avec deux regards complémentaires. Il y a évidemment celui de la Russie, de la France, de leurs influences, de leur présence dans la région et de comment ça s'organise. C'est évidemment largement l'angle de votre étude avec Emmanuel Dreyfus, Maxime. Mais il y a aussi et surtout l'angle local, avec une toile de fond sur laquelle on passe un peu vite ces derniers temps, qui est la lutte contre les groupes armés, et un contexte politique propre au Mali, mais aussi au Burkina Faso, qui a connu un coup d'État en janvier 2022, parce que c'est évidemment une question qui se comprend à l'échelle régionale, et c'est évidemment votre spécialité, Wassim. Je voudrais juste terminer en insistant là-dessus, mais je crois que c'est un travers très problématique du traitement de cette question, en ce moment, de la prendre sous l'angle de la rivalité entre grandes puissances, comme si les acteurs maliens ou plus largement africains n'étaient que sous influence étrangère, sans intérêt et sans agenda propre, avec d'ailleurs, je veux dire, des échos, je crois, assez forts, avec des rhétoriques de l'époque coloniale qui objectifient ou infantilisent un peu ces acteurs africains en se concentrant sur la rivalité franco-russe, comme si tout ça était une partie qui se jouait essentiellement dans les grandes capitales de l'hémisphère nord, ce qui n'est vraiment pas le cas, et c'est donc un travers qu'on va éviter dans cette émission. Donc, j'aurais aimé commencer par replacer ce contexte local dont j'ai dit qu'on l'oubliait parfois, mais qui explique quand même largement les évolutions politiques du Mali et les deux coups d'État de 2020 et 2021, qui est la lutte contre les groupes armés qui apparaissaient de plus en plus difficiles, et le cadre, en tout cas le cadre rhétorique, c'est que Barkhane était dans l'impasse. Voilà. Alors je veux dire que c'est parfois difficile à quantifier, cette lutte contre les groupes djihadistes, parce que, par définition, c'est des actions éparses et isolées, c'est pas aussi facile à suivre qu'une ligne de front dans l'est de l'Ukraine, et encore même ça, c'est pas toujours simple, hein. Et donc, on a la chance de vous avoir, Wassim, ça fait par ailleurs longtemps qu'on ne vous a pas entendu à ce micro, donc simplement, est-ce que vous pourriez nous replacer la dynamique, en tout cas, en 2020-2021, au moment de ce début de cette série de coups d'État, de cette lutte qui était appuyée, pas que, mais notamment par la France, donc où est-ce qu'on en était dans cette lutte contre les groupes armés terroristes ?
Bah, il faut rappeler que l'année 2020 est une année charnière, parce que l'année 2020 a connu donc, la réunion de Pau, où il a été décidé de mettre des forces spéciales dans la zone des trois frontières pour, on va dire, endiguer la montée en puissance de l'État islamique.
Donc la zone des trois frontières, rappelons, c'est Mali,
voilà,
Niger,
Mali, Niger, Burkina Faso, parce que l'État islamique avait conduit des attaques très meurtrières pour les armées locales. D'ailleurs, même la réunion de Pau devait se tenir en 2019, sauf qu'elle a été retardée à cause d'une attaque de l'État islamique au Niger, qui a fait que il y a eu un impact diplomatique, on va dire, de cette attaque. Donc il y a une prise de conscience que l'État islamique était un game changer, j'ai envie de dire, et que c'était un défi, on va dire, sécuritaire et militaire, pour les États de la région, qui n'a pas été pris vraiment en compte parce que le grand joueur, on va dire, djihadiste sur zone, c'était ACMI. Ça l'est toujours, mais on ne prenait pas au sérieux, en gros, cette existence de l'État islamique et le commandement de Abu Walid Sahraoui à l'époque, il avait voué allégeance quand même à l'État islamique dès 2015. Donc on est quand même 5 ans plus tard. Donc une fois cette dynamique a été prise en compte, la France a décidé de mettre le paquet, hein, pour aller vite, en envoyant des forces spéciales, en créant la force Takuba, en poussant pour qu'elle soit opérationnelle très rapidement.
Donc Takuba, on peut juste rappeler, c'est des forces spéciales, mais pas que françaises. L'idée, c'était une opération multilatérale, notamment européenne. C'était pas une opération de l'Union européenne, mais c'est une opération de pays européens qui mettaient en commun des forces spéciales, avec l'idée que, bon, pour chasser les groupes, et notamment les chefs djihadistes, c'est par les forces spéciales que ça se fait bien.
Absolument, et ça a même été à un moment sous commandement suédois, et c'était une sorte de catalyseur, on va dire, d'interopérabilité entre différentes forces spéciales européennes qui ont bossé pour la première fois ensemble dans un environnement, on va dire, pour contrer un groupe djihadiste. Donc ça a marché, parce que la montée de l'État islamique a été contenue. Donc il a été en gros mis sous cloche, donc à la faveur donc de ces décisions, hein, qui ont été prises d'une manière collégiale avec moteur français, évidemment, hein, ça il faut le dire, mais aussi sans oublier que l'année 2020 est aussi l'année où la guerre entre l'État islamique et Al-Qaïda a pris un tournant définitif où il n'y avait plus de marche arrière. Et il faut se rappeler que le fait que l'État islamique soit contenu, c'est aussi à la faveur de l'implication, on va dire, d'Al-Qaïda de son côté et de cette guerre fratricide qui a coûté très cher aux deux groupes.
Donc, alors 2020... ça juste pour redonner un tout petit peu de profondeur historique, je le dis parce que c'est notamment vous étiez venu en parler la première fois. Il y avait pendant longtemps une exception au Sahel, c'est-à-dire Al-Qaïda et l'État islamique se détestent ontologiquement et structurellement, mais pendant longtemps au Sahel, il y avait une sorte d'exception, de coexistence entre les deux, qui a pris fin, voilà, dans cette, ce tournant 2020.
Voilà, fin 2019, début 2020, parce que encore une fois, hein, vu qu'on a le temps de discuter, vaut mieux le rappeler, c'est une histoire d'hommes, finalement. Donc, les chefs de l'État islamique à l'époque, dont Abu Walid, qui a depuis été éliminé par la France, avaient toujours des bonnes relations personnelles, on va dire, avec les chefs d'Al-Qaïda, au point où même l'État islamique central ne lui faisait pas assez confiance pour lui donner une province, on va dire. Et une fois qu'il a été éliminé par la France, c'est à ce moment-là que l'État islamique, sa branche sahélienne, a été officialisée par l'État islamique. Et ça, on peut en parler aussi. Donc la valeur des hommes et du facteur humain et des conséquences de leur mort ou pas. Hein. Parce que finalement, la mort d'Abu Walid a été plutôt, on va dire, bénéfique à l'État islamique dans ce contexte-là. Et donc c'est la même année aussi où on a commencé à avoir des coups d'État, et même des surcoups d'État, comme j'aime bien les appeler, parce que c'est à répétition, parce que même si les forces djihadistes et les groupes djihadistes ont été mis, on va dire, contenus, parce que c'est le mot adéquat, mais leur expansion n'a pas été empêchée, ou les raisons propres qui permettaient une expansion rapide, une fois cette cloche élevée, n'ont pas été... Il n'y a pas eu de réponse à ça, finalement. Parce que ça, la force militaire seule ne peut pas répondre à ça. Et ça fait partie aussi, c'est aussi notre sujet aujourd'hui, de l'incompréhension qu'ont les populations locales, et même parfois les armées locales, il faut le dire, du fait que la France, cinquième puissance mondiale, n'arrive pas à mettre un terme à cette menace djihadiste, malgré sa puissance, sa présence et le poids de son appareil militaire.
Justement, pour revenir sur ce coup d'État, mais est-ce que c'était un coup d'État, je ne vais pas dire logique, mais en tout cas prévisible, est-ce qu'il y avait une grogne qui montait donc au Mali, est-ce que c'était un mouvement de fond populaire, etc., et que le coup d'État vient cristalliser ça, ou est-ce que c'est apparu un peu comme une surprise, comme un contre-pied de la tendance dans laquelle allaient les choses?
En même temps, écoutez, après, les coups d'État se font dans les capitales. Donc il y avait une grogne à Bamako, une grogne qui a profité aux militaires qui ont décidé de faire un coup d'État. Et le fait est que ce sont ces mêmes militaires qui étaient au front face aux djihadistes et qui ont essuyé échec sur échec. Donc eux, ils étaient conscients de la situation, mais peut-être la population ne l'était pas. Et donc évidemment qu'ils ont profité de cette grogne pour faire un premier coup d'État, puis un deuxième coup d'État, et c'était le cas aussi au Burkina Faso. Parce que si vous voulez, comme on nous apprend dans les livres d'histoire, il y a les causes directes et les causes indirectes. Donc la goutte qui fait déborder le vase, la cause directe finale qui mène à un coup d'État, c'est évidemment le sentiment que toutes ces opérations militaires ne mènent à rien, et cette alliance avec la France, malgré la puissance de la France, encore une fois, n'arrive pas à mettre un terme à la menace djihadiste. Mais quand on est dans ces dynamiques, on oublie que, quand même, la force militaire française, donc évidemment en collaboration avec les forces locales, a contenu cette menace. Et on a vu très bien qu'une fois la France s'est retirée du Mali, donc plus de couverture aérienne, plus de forces spéciales au sol, on voit même que la nature même des opérations des djihadistes a complètement changé.
Ouais, justement, j'allais vous demander, puisque l'argument c'était l'inefficacité du dispositif tel qu'il était, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a amené au moins temporairement à un nouveau souffle dans les opérations antiterroristes, ce changement?
Ça a amené, au premier mois en tout cas, quand on a vu que Wagner est arrivé sur le terrain, il y a eu quasiment un peu ou prou le même effet.
Je ne parlais pas de Wagner, on va en reparler dans une seconde, je parlais vraiment au moment du coup d'État de 2020, ouais, etc. Est-ce que il y a eu une sorte de deuxième souffle?
Non. Non. Il y a eu évidemment une volonté affichée, une communication affichée, mais le fait est que ça n'a pas changé grand chose sur le terrain. Même si à l'époque il y avait encore un travail qui se faisait d'une bonne manière, hein, entre les armées maliennes et les armées françaises, hein, elles étaient sur la même longueur d'onde. Hein. Ça il faut le rappeler aussi. Mais j'ai envie de dire que le travail anti-djihadiste a continué tel quel, avec les résultats, donc qui sont des résultats tactiques, et contenir la menace. Parce qu'on est encore dans ce qui est du militaire. Et ce qui est du militaire ne répond pas aux causes profondes de l'avènement des mouvements djihadistes et de leur acceptation, on va dire, dans le milieu dans lequel ils prospèrent. Donc là, on ne parle pas que de militaire, on parle du retour d'un État, mais pas avec sa police, mais qu'avec sa police et son armée, mais avec sa justice, avec ses services, etc., etc., avec l'éducation, etc. Et ça, ça n'a pas été le cas. Donc, on peut faire des opérations militaires ad vitam aeternam et des coups d'État, mais tant que ces questions-là ne sont pas résolues, eh ben, les mouvements djihadistes, évidemment, ils ont de quoi prospérer. Parce que le modèle que eux proposent, ben, pour les populations locales, il est viable. Finalement, face à un modèle défaillant, étatique défaillant et prédateur aussi, à beaucoup d'égards.
Alors maintenant, si on passe un peu à la Russie, alors je l'ai dit, on ne va pas refaire l'émission de la dernière fois, mais on peut quand même mentionner que le Mali, c'est pas n'importe quel pays africain du point de vue de la Russie, et que donc il y a des liens qui sont quand même assez anciens et forts, notamment dans le domaine militaire, alors d'abord avec l'URSS, puis avec la Russie. Alors Maxime Audinet, est-ce que vous pourriez peut-être nous résumer comment, de quand date et comment se place, disons, cette coopération russo-malienne, et puis évidemment on élargira la région, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, dès le, en fait, le Mali, la fin.
Pour le dire simplement, les Maliens ont depuis longtemps des hélicoptères russes, notamment. Ça se voit de manière très apparente et depuis très longtemps, donc ils viennent bien de quelque part.
Voilà, et les relations russo-maliennes, effectivement, sont anciennes. Elle remonte en particulier aux années 60, qui est un moment extrêmement important qu'il faut quand même rappeler, parce que il a un poids, je dirais, matériel et symbolique sur la relation présente. C'est un moment où l'Union soviétique va donc soutenir le Mali indépendant. Des liens sont tissés avec Modibo Keïta, et on voit dès ce moment-là que parallèlement à la question des accointances idéologiques va aussi se former une coopération qui va reposer sur la coopération de défense, sur la coopération militaro-technique, qui va en fait perdurer pendant les années 60, un petit peu au début des années 70, ensuite ça va un peu se dégrader. Mais lorsque la relation est réinvestie après la chute de l'Union soviétique et donc au début des années 90, mais surtout en fait à partir de 2003, on voit que cette relation interétatique, elle va passer effectivement par des accords de coopération militaire, des ventes d'armes, de la formation militaire, et c'est comme ça en fait que va s'organiser en fait la relation russo-malienne avec, je pense notamment en 2013, la vente de 3000 AK-47 à l'armée malienne, qui aussi s'inscrit, et c'est assez intéressant par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, dans une logique finalement de soutien de l'armée en complémentarité avec ce que fait d'ailleurs la France à ce moment-là avec l'opération Serval. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas du tout la rivalité justement franco-russe qu'on a vu se dessiner plus tard. Maintenant, il y a une autre phase qu'on connaît depuis quelques années qui est importante et qui advient parallèlement à la fois au réengagement de l'État russe et de la Russie en général sur le continent depuis, je dirais, 5 ou 6 ans, notamment avec ce qui s'était passé au moment du sommet de Sotchi en octobre 2019. Et puis, le deuxième acteur évidemment important...
Alors je vais rappeler, c'est le sommet donc Russie-Afrique à Sotchi, donc évidemment le lieu où il y avait eu les JO, mais qui est un lieu de villégiature sur la mer Noire, qui est un lieu qui est bien pour... Mais où on a vu apparaître à cette réunion-là aussi toute une série d'acteurs africains qui depuis ont pris du poids, notamment je pense à Nathalie Yambe, etc. Oui. Enfin bon, c'est des personnages qui à ce moment-là ont commencé à se placer, qui depuis sont devenus très pivotaux dans l'influence russe dans la région, on en reparlera. Mais donc voilà, d'ailleurs on peut noter qu'il y a une séquence, enfin, octobre c'est le sommet Russie-Afrique, janvier quelques mois après c'est le sommet de Pau, pour lutter contre le djihadisme. Enfin, à ce moment-là, on sent que, tournant 2019-2020, il y a quelque chose qui commence à se mettre en place, il y a un pivot, quoi.
Voilà, et juste ce que je voulais signifier, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est après une domination importante des acteurs étatiques. Alors, il y a bien sûr des exceptions. Je pense par exemple au cas d'une entreprise comme Roussal en Guinée, qui est implantée depuis très longtemps. On a d'autres acteurs, en fait, russes importants qui ont
Roussal,
un poids économique.
C'est une entreprise qui vient notamment de l'aluminium.
L'aluminium, exactement. Mais ce qu'on voit se dessiner en fait depuis maintenant quelques années avec l'arrivée de Wagner en Afrique subsaharienne, notamment au début à travers le Soudan et la République centrafricaine, c'est justement ce qu'on a essayé de qualifier de présence bicéphale, c'est-à-dire une présence qui n'a qu'un seul corps qui serait effectivement ce réengagement de la Russie sur le continent après avoir délaissé cet espace pendant de nombreuses années, mais qui a deux têtes, c'est-à-dire une présence officielle et puis cette présence non officielle qui n'est pas tout à fait privée, pas tout à fait non étatique, qui a des liens nombreux avec l'État russe, mais qui se manifeste en particulier de manière très évidente au Mali depuis les négociations que vous avez eu la gentillesse de rappeler en septembre 2021 avec la junte, et puis avec l'arrivée effective de Wagner à la fin du mois de décembre 2021, et puis son déploiement à ce moment-là. Juste pour dire une petite chose, c'est que effectivement, je pense qu'on a tous été pris de court aussi par cette arrivée de Wagner au Mali pour plusieurs raisons, notamment parce que la présence française était encore importante et que ça représentait évidemment pour un groupe comme Wagner un nouveau type de théâtre après la République centrafricaine qui est vraiment le laboratoire de cette présence de Wagner. Ce qu'on voit quand même aujourd'hui, et on en reparlera sans doute, c'est que la présence de Wagner au Mali, elle est quand même très différente de ce qu'on a pu observer en Centrafrique. Il y a évidemment des liens, il y a un modèle entrepreneurial dont on reparlera qui est mis en place, mais on voit par exemple que cette présence de Wagner est beaucoup moins importante à Bamako qu'elle ne l'est à Bangui, que l'activité va se concentrer beaucoup plus, mais Wassim connaît ça beaucoup mieux que moi, dans le centre du Mali, que la question de l'extraction minière est encore très embryonnaire par rapport à ce qu'on voit en Centrafrique, et donc on voit malgré tout que même si Wagner est implanté, son niveau de pénétration de plusieurs champs d'activité politique, économique au Mali est quand même plus, à ce stade en tout cas, plus moins important qu'il n'a pu l'être, ou qu'il l'est encore d'ailleurs en RCA par exemple.
Mais justement, est-ce qu'on sait comment ça s'est fait et pourquoi pour Wagner? C'est-à-dire, on a beaucoup dit, le cadre général, c'était une stratégie d'aubaine de la part de la Russie, c'est-à-dire là où ils voient de la place, ils envoient, il y a un peu des jalons avec Wagner pour essayer de prendre pied, etc. Est-ce qu'on sait si c'est seulement ça, s'il y avait un intérêt autre, un peu plus, disons, une stratégie, quoi, de plus long terme? Est-ce qu'on sait, voilà, ce qui s'est passé du côté Wagner-Russie à cette, voilà, disons à l'automne 2021?
Alors on a vu dès même le début de l'année 2021 des signaux apparaître avec par exemple des lieutenants ou des poissons pilotes de Yevgeny Prigojine, qui est donc le fondateur du groupe Wagner, qu'on connaissait assez bien et qui ont fait par exemple des interviews dans la presse malienne. Je pense à notamment Alexandre Ivanov dans Mali Actu, où il commence à expliquer, voilà, dans l'espace médiatique malien, que ben, finalement ça pourrait être intéressant de s'appuyer sur nos instructeurs qui font du bon boulot en RCA, qui ont fait leurs preuves, qui ont repoussé les groupes rebelles, qui ont défendu les autorités locales. Donc on voit quand même se dessiner en amont une volonté justement de diffuser cette idée que Wagner pourrait arriver au Mali. Après, on voit que au moment où tout va se décider, c'est justement à partir du mois de septembre 2021, avec des négociations qui sont lancées avec les autorités, qui s'appuient notamment sur des liens anciens avec, je pense par exemple à une figure comme Sadio Camara, le ministre de la Défense, qui a des liens très étroits avec la Russie, qui a été à Moscou, et puis peu à peu, parallèlement aussi à une compétition qui va s'accroître justement entre les autorités françaises et maliennes, avec une crise politique qui va s'approfondir au cours des mois qui suivent. Le partenariat va se renforcer, va se dessiner, et puis à mesure que la France décide de quitter le territoire, Wagner va, comme ils l'ont fait par exemple en République centrafricaine, va occuper l'espace laissé vacant par l'armée française, comme ça a été le cas un an après l'opération Sangaris en RCA. Mais
non, mais justement, est-ce qu'on sait ce que cherchait là-dedans le gouvernement de la junte malienne? C'est-à-dire, peut-être on a un peu oublié, mais c'est une période où il y avait beaucoup de tensions très médiatiques, notamment entre le gouvernement malien, le Premier ministre Choguel Maïga, et la France. Il y a eu des déclarations à l'ONU, il y a eu fini par avoir un renvoi de l'ambassadeur français au Mali, etc. Donc, est-ce que c'est purement, disons, un truc de revers, quoi, avec des tensions avec la France qui escaladait, et qui escaladait en plus qu'on voyait les liens croissants avec Wagner? Ou est-ce qu'on pense qu'ils avaient déjà ce plan-là plus ou moins en tête dès le début, qu'ils pouvaient jouer la Russie contre la France? Wassim Nasr.
Moi, je pense que l'implantation déjà de Wagner au Mali diffère beaucoup des autres implantations en Afrique ou ailleurs, parce que c'est une décision, à mon humble avis, stratégique hein, de la part de la Russie, d'aller sur un territoire où elle n'est pas sûre de gagner, mais où elle tente de repousser, donc évidemment, la présence française, mais dans une zone ou dans un pays qui va faire office de porte-avions pour l'Afrique. C'est un exemple. C'est comme, ça veut dire, c'est un moment déterminant, comme ce fut le moment déterminant de l'arrivée des Russes officiels, en tout cas en Syrie en 2015, qui était précédé par l'arrivée de mercenaires dès 2012. Ça, on l'oublie aussi. Donc, c'était vraiment une expérience. Et je pense que les
parce que ça, on peut préciser, on oublie, on voit les succès évidemment, mais on peut préciser que ça n'a pas été, ça a pas été une vallée de roses, le Wagner en Afrique, notamment souligner qu'au Mozambique. Au Mozambique en 2019, ouais. Ils arrivent et ils sont obligés de dégager deux mois après parce que ça se passe pas bien pour eux du tout. Enfin, en fait, contrairement à la manière dont on le voit, de manière peut-être un peu inquiétée depuis Paris, ils n'ont jamais parti gagner dans ces affaires-là, quoi.
Non, mais c'est peut-être aussi pour ça que la France était très sûre, on va dire, de son coup au premier jour au Mali, parce que Wagner n'était pas une expérience, n'a pas eu d'expérience de réussite à part celle de l'Afrique centrale. Le Soudan, c'est une autre histoire. En Libye, c'était un échec aussi, mais bon, à ce moment-là, on était plus ou moins du même côté. Ça, il faut le rappeler.
Du côté du maréchal Haftar.
Du côté du maréchal Haftar, voilà, peut-être qu'il faut le rappeler. Donc peut-être que ça n'a pas été pris au sérieux, mais le modèle économique, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, de Wagner ne s'applique pas au Mali. Ça veut dire Mali, Wagner au Mali aujourd'hui est sous perfusion russe. Voilà, que ce soit logistique ou que ce soit en termes de pour rester dans le pays, ils ont besoin de ça. Et il ne faut pas oublier aussi que l'arrivée de Wagner s'est faite, on va dire, d'une manière assez rapide, avec des envois tout de suite dans le centre et même plus loin, mais avec des effectifs moindres, ça il faut le dire, mal équipés, complètement dépendant de la logistique de l'armée malienne, jusqu'à peu, où maintenant ils travaillent avec les milices d'Ozo, donc c'est pas mieux. Et avec
des... C'est quoi les milices d'Ozo ?
C'est des milices communautaires dans le centre du Mali. Et donc ils ont pas le même effet, on va dire, sur le terrain, ni les mêmes capacités sur le terrain. Et ça, c'est de la bouche des gens qui les voient, ou même qui les côtoient, voire qui travaillent avec eux, par exemple dans la zone de Ménaka. On n'est pas du tout dans une force de frappe fulgurante. Et j'ai envie de dire aussi qu'au début, il y a cette méconnaissance et il y a cette aura, on va dire, de Wagner, qui est totalement amplifiée et injustifiée à mon humble avis, mais qui existe, hein. Ce qui a fait qu'on a beaucoup parlé de ça, mais que du côté des djihadistes aussi, il y a eu un effet qui ressemble beaucoup à ce qu'on a pu constater dès que Serval est arrivé sur le terrain. Ça veut dire qu'il y a une absorption du choc Wagner. Les djihadistes se sont retirés, ils ne se sont pas confrontés à Wagner, ils ont étudié leur ennemi pour voir comment réagir. Mais au bout de quelques mois, ils ont tout de suite rappliqué. On a vu la bataille de l'attaque de Mondoro, où les djihadistes ont très bien compris qu'ils pouvaient s'attaquer à Wagner, qu'ils pouvaient faire des dégâts, que Wagner n'a pas de couverture aérienne et que la partie va être beaucoup plus facile que face à l'armée française.
Des soldats russes qui débarquent donc sur le terrain mal équipés, c'est vraiment une nouvelle tout à fait surprenante au vu de ces derniers mois. Maxime Audinet ?
Oui, non, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Wassim, c'est la question de l'aura, et que justement ce qu'on voit se dessiner au Mali, c'est que ce modèle entrepreneurial, autant... Est beaucoup moins développé sur le plan des logiques extractives, des logiques de captation de ressources minières, notamment.
Ça, on peut préciser, juste, ouais. Je l'ai mentionné, il y a une très belle enquête du Monde, du service vidéo du Monde, il y a quelques semaines, notamment de Thomas Edou, qui est déjà passé dans le podcast, qui montre très bien ça pour le cas du Soudan, comment les entreprises russes, en fait, captent la totalité de l'or
ou
au Soudan.
Ça arrive à se financer. Voilà. C'est pas encore le cas au Mali.
Voilà. Et alors, donc, on sait qu'il y a, notamment des négociations en cours avec les autorités qui semblent ne pas aboutir. Il y a la question de retirer des permis d'extraction à des compagnies, je crois, australiennes et canadiennes ouais. Pour les refournir à Wagner. Mais tout ça est beaucoup moins développé qu'en RCA, par exemple, où on voit bien que c'est maintenant presque l'activité essentielle de Wagner, où ils ont intérêt à pérenniser leur présence en RCA pour capter le plus de ressources, notamment en matière d'or, de diamants et surtout de bois précieux plus récemment. En revanche, le terrain qui est vraiment occupé par Wagner au Mali et par ce qu'on appelle nous la galaxie Prigogine, c'est-à-dire tout le réseau d'entités en fait qui gravite autour de cette figure de Prigogine et de Wagner, c'est justement le champ symbolique, le champ informationnel, et c'est là qu'il y a un enjeu absolument considérable pour Wagner et plus largement pour la Russie, puisque le Mali précisément a une portée symbolique beaucoup plus importante, notamment pour la France, et c'est là qu'on rentre dans cette question d'occuper ou d'être projeté en tout cas sur un terrain qui a été traditionnellement ce que les Russes caractérisent encore d'anciens précarés français, alors que désormais la Russie serait capable de se projeter sur cet espace-là et de concurrencer très, très directement une puissance occidentale à sa mesure. Et ça, c'est pour le coup un élément sur lequel il y a un investissement important de la part des acteurs russes, que ce soit d'ailleurs des acteurs étatiques ou liés à Prigogine, et la portée est plus importante que sur d'autres espaces comme en RCA ou au Soudan, où on voit d'ailleurs que ce champ informationnel est assez peu investi par les acteurs.
On est au-delà du mercantile que peut représenter la quête de Wagner. On est au niveau stratégique, et donc c'est pour ça que je disais que je pense que la décision a été prise clairement à Moscou, et que Moscou donne des moyens à Wagner pour qu'il puisse constituer ou construire ce porte-avions russe pour l'Afrique que constitue le Mali.
Justement, on va revenir évidemment sur la dimension symbolique, la dimension informationnelle, la dimension de ping-pong, on va revenir dans une seconde, mais juste j'aurais aimé continuer ce tour sur en fait, l'efficacité de Wagner sur le terrain. Vous avez commencé à en parler, Wassim Nasr. Il faut peut-être dire un mot, il y a un moment qui a cristallisé ça, c'est en mars 2022, donc l'opération, la bavure, le massacre de Moura. Mm. Peut-être replacez-nous ce que c'était, ce qu'on peut en dire, parce que ça symbolise aussi des choses sur la manière dont Wagner s'est déployé dans les premiers mois, quoi.
Absolument. Donc Moura, c'est le choc des chiffres, hein, parce qu'il y a eu plus de 350-400 morts. C'est une affaire que j'ai suivie de très près. Donc en gros, une opération héliportée, on va dire, de l'armée malienne et de Wagner, jour de marché à Moura, qui est un des plus grands marchés sur zone historique.
C'est où, non ?
C'est dans le centre-ouest du Mali. Et finalement, il y a eu cette opération, donc héliportée, suivant des informations qui laissaient entendre et qui avait provoqué d'autres opérations dans le centre, qui laissaient entendre que Mohamed Koufa pouvait se retrouver là-bas. Donc des informations que les Maliens tenaient d'une de ses femmes.
Donc Mohamed Koufa.
Mohamed Koufa, numéro 2 de Jamaat Ansar Muslimin, donc le JNIM, donc la branche sahélienne d'Al-Qaïda, d'ACMI. Sauf que non, il n'était pas là. Donc Dogofri, c'était avant Moura, donc massacre, ils ne l'ont pas trouvé. Une autre opération, puis Moura. Évidemment, il y avait des djihadistes à Moura, parce qu'à Moura, les djihadistes font leur marché. C'est considéré comme leur zone d'influence. Il y a eu un échange de tirs au début de l'opération, mais il y avait quelques djihadistes, mais les quelques djihadistes tués et ceux qui ont été arrêtés ne justifiaient pas les 5 jours de massacre. Hein, parce qu'on parle de 5 jours, hein, où les gens étaient cherchés chez eux, exécutés à côté du village, etc. etc.
Et donc ça, pourquoi c'était... Pour chercher les chefs djihadistes méthodiquement ?
Ce qui a provoqué l'opération, c'est la recherche de Koufa, sauf que quand ils ne trouvent pas Koufa, bah, c'est la population civile qui paye. Voilà, il n'y a pas de... C'est comme ça que ça s'est passé avant Moura, mais Moura a cristallisé parce qu'on a eu les chiffres. Voilà, des gros chiffres, c'est ça. Et puis, voilà, donc chou blanc, pas de Koufa, donc massacre sur 5 jours. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que la télé malienne va à Moura, ils interviewent les gens, voilà. Et puis, l'armée malienne part, hein, la télé malienne part, les djihadistes reviennent. Et se venge de ceux qui ont collaboré avec les autorités. Donc c'est un exemple, qui caractérise les opérations conjointes entre les FAMA et Wagner. Des grosses opérations, des gros massacres derrière, mais le terrain n'est pas conquis. Le terrain est toujours celui des djihadistes. Après, On a cette, on va dire, montée en puissance communicative, mais qui ne se traduit pas du tout sur le terrain, parce que les djihadistes ne cessent d'élargir leur champ d'action. On peut parler aussi de l'État islamique dans le Ménaka. Les djihadistes sont chez eux. Par exemple, les accords qui ont été conclus sur la RN16, pour ouvrir la RN16 qui était sous blocus djihadiste, ils se sont faits avec les autorités locales, sans l'armée malienne, sans l'État malien. Donc les djihadistes se sentent chez eux, c'est eux qui font la loi. On constate une baisse des opérations là, au moment où on parle, mais c'est la saison des pluies. Ce n'est pas l'effort militaire, donc de facto, les opérations baissent dans cette zone du centre Mali, mais on voit une montée des opérations du JNIM, donc du même groupe, au nord du Burkina Faso. Et donc, l'effet de Wagner, moi je dirais pas qu'il est nul, je dirais plutôt qu'il est négatif. Parce que les massacres à répétition ont conduit à des recrutements sans précédent dans les rangs d'Al-Qaïda dans le centre et à une montée en flèche des candidats aux opérations suicides. Ça, on a pu le constater sur le terrain. Et même, on commence à constater le désenchantement des populations locales qui auraient pu espérer que Wagner pourrait être une réponse et qui disent à l'armée malienne, ne venez pas, on va trouver des accords locaux avec les djihadistes, malgré nous, forcés, peut-être, mais peut-être que ça va nous acheter la paix pendant quelques semaines, pendant quelques mois.
Maxime Nizet.
Oui, non, je voulais juste là encore rebondir pour dire que ce qu'on voit à travers le massacre de Moura, auquel donc Wagner a participé, c'est aussi précisément que cette logique du groupe Wagner qui, au-delà de la captation économique, au-delà ce qu'on appelle l'entrepreneuriat d'influence, c'est aussi un groupe criminel. Et c'est quelque chose qu'on a vu très bien en RCA avec toutes les exactions qui ont été commises par le groupe Wagner, qu'on voit constamment aussi dans le Donbass avec, je crois, hier ou avant-hier, l'assassinat épouvantable d'un déserteur de Wagner qui a été massacré par des membres du groupe. Et ça, c'est lié aussi à cette personnalité de Yevgeny Prigojine, à cette caractéristique du groupe Wagner qui sont aussi ce qu'on appelait, ce que Vadim Volkov appelait au début des années 2000, des entrepreneurs de violence aussi, c'est-à-dire en fait des groupes criminels qui utilisent la force, qui utilisent l'intimidation, qui utilisent la violence au sein de leurs propres pratiques professionnelles et qui sont des groupes structurés qu'on a vu dessiner tout au long des années 90. Et il faut aussi comprendre qu'une figure comme Prigojine, elle a cette composante, enfin une figure comme Prigojine et donc son réseau ont aussi ces composantes en leur sein qu'on voit à chaque fois en fait que Wagner se déploie sur un terrain.
Летай, и арбалеты, ща вагнера подъедут. Где-то, где звон монеты, танцуют их танеты. Летай, и арбалеты, ща вагнера подъедут. Где-то, где звон монеты, танцуют их танеты. Я был на дискотеке в Триполи, полет валькирий. Я танцевал в Бенгази, Донбассе, Пальмире. Бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро пальцы. Тут на нахер скитальцы. Пьем перцу, венки в перцы. Выступает оркестр. Стук перцу, мы тут с концертом. Давай-ка сыграем, маэстро. Летай, арбалеты. Ща вагнера подъедут. Где так, где звон монеты. Танцуют их там нет. Летай, арбалеты. Ща вагнера подъедут. Где так, где звон монеты.
Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'il y a évidemment une sorte de deuxième dimension à tout ça, au-delà de la présence physique, dont on vient de voir qu'elle est réelle et tangible, et parfois cruelle et criminelle, mais une autre présence qui vient la doubler ou la soutenir, qui est celle de la lutte informationnelle, disons, et des efforts russes dans ce champ de la communication, dans ce champ de l'information. Alors c'est évidemment particulièrement votre spécialité, Maxime Audinet, je peux rappeler que vous avez fait votre thèse sur le média Russia Today, qui est d'ailleurs récemment paru aux éditions de l'INA. Mais dites-nous peut-être comment il a commencé à se mettre en place, disons, cet effort informationnel russe au Sahel en général, et au Mali en particulier.
Oui, alors Non, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, depuis en fait des années, justement, le groupe Wagner s'accompagne de tout un appareil, ce qu'on appelle d'influence informationnelle, qui est aussi un appareil de propagande, qui, à chaque fois qu'en fait le groupe se déploie quelque part, va se mettre en marche. C'est toute une machinerie qui va rentrer en action pour venir légitimer cette présence auprès à la fois des audiences locales et puis auprès des audiences internationales. Donc ça, c'est toute cette facette qui fait aussi partie du modèle de la galaxie Prigogine et qu'on voit bien en fait, qu'on a bien vu se mettre en place en Centrafrique et puis qu'on voit maintenant se mettre en place au Sahel. Alors ça passe par plusieurs composantes. Il y a une logique de pénétration des écosystèmes médiatiques locaux, de financement, de corruption de journalistes. Ça peut passer par la création de médias, comme on l'a vu en RCA. Pour l'instant, au Mali, on n'est pas sur ce type d'initiative, ce qui montre aussi que le niveau de pénétration dans cet espace est moins important que dans d'autres espaces. Mais on a des liens qui sont tissés avec des journalistes, on a des liens qui sont tissés avec certaines relations, avec certaines rédactions. Et puis surtout, on a aussi des liens qui sont tissés avec précisément des activistes, des militants, des groupes politiques. C'est le cas par exemple d'un groupe comme Yerewolo au Mali, d'ailleurs depuis longtemps, depuis avant l'arrivée du groupe Wagner, et qui vise cette fois-ci à faire de la cooptation et faire en sorte que des acteurs russes et locaux qui ont des intérêts convergents à coopérer rentrent finalement en contact et puis puissent œuvrer pour faire avancer leurs propres agendas, qui ne sont pas d'ailleurs forcément les mêmes, qui sont souvent très différents, mais qui peuvent converger sur un certain nombre d'aspects. Et puis le dernier point dont on parle beaucoup au sein du ministère des Armées, c'est évidemment l'occupation du terrain de la désinformation, notamment de la désinformation en ligne, avec toute une série de campagnes qui sont menées sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est évidemment le savoir-faire historique de Prigogine qui, il faut le rappeler, est le parrain et le financeur des fameuses usines à trolls qu'on a vu à l'œuvre, notamment dans les élections américaines de 2016. Et
notamment, on peut rappeler qu'il avait une sorte de méga ferme à trolls qui s'appelait l'Internet Research Agency, c'est un nom que j'aime beaucoup parce qu'on dirait... On dirait Internet Explorer, quoi. Enfin, c'est hyper neutre, c'est hyper objectif comme truc.
Très formaliste.
Alors, en fait, c'était vraiment des hangars de trolls qui faisaient de la désinformation sur les réseaux. Et ça, on peut dire, enfin, vous relevez qu'il y a tout un tas de, une sorte d'éventail d'outils et notamment une tactique, enfin, disons, un trick, quoi, que vous appelez le fake man on the street, qui apparemment il développe beaucoup au Mali, c'est-à-dire il crée un faux compte de quelqu'un qui est censé être un local et qui est censé avoir vu tout un tas de choses et en témoigner personnellement, quoi.
Voilà, alors je précise juste que l'expression n'est pas de moi, mais effectivement c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à l'œuvre et qui a été très présent dans la fameuse affaire de Gossi avec, on y reviendra, mais des gens qui se font passer effectivement pour des personnalités ou des personnes lambda locales, mais qui vont participer en fait à cet effort informationnel pour le rendre tout simplement plus crédible, plus légitime, puisque quand il s'agit de... effectivement de personnes qui viennent du pays, ça, c'est plus crédible aux yeux des personnalités locales, ce qu'ont très bien compris les acteurs russes, c'est-à-dire qu'il y a un effort de sous-traitance, d'externalisation de toutes ces opérations d'influence auprès d'acteurs locaux pour rendre le message plus crédible.
Après, on peut préciser que c'est évidemment moins facile d'écrire comme un Malien depuis Moscou. Il peut y avoir des acteurs d'influence très locaux avec des intérêts qui font les mêmes trucs que les Russes, mais qui les font plus efficacement parce qu'il y a une plus grande maîtrise des codes locaux et notamment de la sociabilité en ligne.
Et c'est ce qu'on voit se dessiner depuis très longtemps. On a des cas d'excroissance de l'IRA, par exemple, au Ghana. Il y a eu ce qu'on appelait le BIC, le Bureau d'information et de communication en RCA, rattaché à la présidence où le groupe Wagner a eu un rôle très important de coordination de ses activités, mais qui était géré par des centrafricains. Et aujourd'hui, la question, évidemment, se pose au Mali, où on voit apparaître des initiatives similaires avec des tas de choses qui se passent. Et juste pour préciser, je crois que c'est important aussi par rapport à ce que vous signifiez au début du fait de cette idée d'une compétition entre grandes puissances. Non, il y a évidemment des acteurs locaux qui bénéficient de ce genre d'action. Et ce qu'on voit par exemple très bien se dessiner dans le cas du Mali, c'est une tentative de faire converger un message russe qui serait, ou un récit russe qui consisterait à défendre les souverainetés africaines contre ce que les Russes qualifient de néocolonialisme occidental, qui est un mot-clé de ce type de campagne d'influence, avec des acteurs locaux, et je pense notamment à des acteurs qui se réclament de la frange souverainiste du panafricanisme, et qui, eux, par exemple, défendent le même type de message, finalement, dans leur critique de la France, dans leur critique de cet interventionnisme occidental. Et ça, c'est un effort important aussi de ce type d'initiative qui montre que à chaque fois que le groupe Wagner va s'implanter dans un pays, il y a tout un travail en amont de compréhension des écosystèmes médiatiques, des écosystèmes idéologiques, militants, locaux, pour venir finalement l'exploiter au mieux et être le plus efficace possible, en fait, dans cet espace politique et dans cet espace informationnel.
Alors justement, il faudrait dire que, donc ça, c'est un effort de longue haleine qui n'a pas commencé avec le coup ni le surcoup d'État, mais qui a quand même évolué. Justement, on peut en dire un mot de la manière dont cette lutte informationnelle a muté, enfin en tout cas s'est cristallisée au moment du coup d'État. Et pour ça, il faut évidemment parler du cas de Gossi, donc de cette opération d'influence, de maquillage, je ne sais même pas tellement comment la décrire, tellement il y a tout dans cette affaire. Peut-être Wassim Nasr, si vous voulez, essayer de faire un bilan de ce truc qui était fou, parce qu'il y a 25 niveaux dedans. Ça commence avec le fait essentiel et premier du massacre, et puis ça se termine aussi avec des opérations d'influence multinationales, avec des contre-opérations d'influence de la France. Enfin, c'est une affaire qui concentre tout, quoi. Allez-y,
oui, oui, effectivement, c'est une affaire qui concentre beaucoup de choses. Mais j'aimerais rebondir sur ce qu'il disait Maxime, c'est que, évidemment, il prépare le terrain. Donc c'est pas, on saute sur l'occasion, on voit que la France n'est pas contente parce qu'on s'est embrouillé avec Choguel Maïga, et on y va. Il y a une préparation en amont, une réflexion stratégique. Et le maquillage de Gossi en fait partie, c'est une partie, mais il y a tout un travail en amont qui est fait. Sinon, ce genre d'opération ne serait pas possible, on va dire. Donc Gossi, c'est vraiment un cas d'école et un game changer, j'ai envie de dire, des deux côtés. Hein. Du côté des Russes, mais aussi du côté de la France. Donc tout a commencé, évidemment, comme souvent, avec un faux compte, ce que tu décrivais tout à l'heure, l'homme de la rue, qui dit, regardez...
Ça, on peut préciser, c'est 22 avril 2022. C'est
voilà, absolument, voilà. Donc, la France rend la facilité ou la base de Gossi à l'armée malienne, en bonne et due forme, c'est pas un secret, il y a une petite cérémonie, voilà, et tout est fait dans les règles, on va dire. Sauf qu'il y a ce compte qui dit, regardez, vous allez voir ce que vous allez voir, en gros, après le départ des Français de Gossi. Tout ce qui finalement a mis la puce à l'oreille aux Français, pour faire court. Et ils se sont dit, bon, on est parti, mais on va quand même garder une petite surveillance pour voir ce qui se trame là-bas. Et on est à une période où, comme on disait tout à l'heure, où Wagner avance au gré du départ des Français, sur le terrain, hein, je veux bien dire, et assez rapidement. Donc ça veut dire que Wagner ne se préoccupe pas, on va dire, de l'efficacité des hommes qui vont être envoyés sur le terrain. Il suffit d'avoir un homme qui va dire « on est là ». Peu importe qu'il soit bien équipé, mal équipé, qu'il aille à pied, en moto ou par ailleurs, c'est juste marquer la présence. Et donc la France a mis un moyen de surveillance, on va dire aérienne, de la facilité de la base de Gossi, qui a capté, donc finalement, une manœuvre, on va dire, de l'armée malienne et de Wagner, où ils ont vu qu'ils enterraient des corps. On ne savait pas encore d'où les corps provenaient. D'une manière concomitante, donc il y a eu la diffusion par ce même compte qui a dit « vous allez voir ce que vous allez voir », donc des images qui tournaient autour des personnes qui étaient en train d'enterrer des corps, en train de les filmer en disant « voilà ce qu'on a vu », en expliquant que c'est la preuve que la France a laissé un charnier de mémoire, hein, c'était à quelques, c'était pas très loin de la base, hein. C'était vraiment à côté de la base, donc c'est quand même un peu gros.
Bah oui, bien sûr, voilà. Les militaires français font des crimes de guerre, ils les enterrent à côté de la base, bah, c'est logique.
Voilà, et ils partent et ils laissent ça derrière eux, donc c'est un peu, voilà. Mais après, il faut, petite parenthèse, il faut savoir que ce genre de manipulation s'adresse à un public déjà réceptif, parce qu'encore une fois, ce public a été travaillé en amont. via via l'information normale, en achetant des papiers qui ont été publiés dans la presse malienne, etc., etc. Donc un public travaillé est assez réceptif.
Qui n'est pas non plus la totalité des Maliens.
Qui n'est pas la totalité des Maliens, mais qui est une bonne partie des Maliens présents sur les réseaux sociaux et qui sont plutôt des gens de Bamako et sa banlieue. Voilà. Parce que les autres, ils n'ont même pas d'Internet, par exemple. Voilà. Et donc, ça a été filmé. La manipulation n'a pas pu aboutir. Et c'est là le game changer du côté de la France. Et ça, j'ai travaillé de très près aussi sur cette affaire. Donc, les armées françaises ont accepté de diffuser ou de donner aux médias, donc dont France 24, ces fameuses images de drones et d'autres photos prises de nuit, de jour, etc. Donc, révélation des capacités, voilà, pour la première fois.
Oui, parce que ça, on peut dire, forcément, il fallait le faire, sinon ça allait être compliqué, mais... Effectivement, ça révèle que du coup, il y avait quand même un drone en train de filmer, etc. Enfin bon, c'est pas non plus parfaitement évident
que la
France. Oui, bien sûr.
Mais c'est de bonne guerre. Mais le game changer, c'était que les armées françaises acceptent de donner ces images. On va pas rentrer dans les détails de ce qui a été, négocié. Voilà, mais acceptent que ces images soient diffusées. C'est vraiment la première fois. Et c'est comme ça, en tout cas, que la manipulation n'a pas pu aboutir, parce que ça a été pris en amont, parce que ces images ont mis la puce à l'oreille à des journalistes, dont moi-même, et on a pu travailler sérieusement sur ce cas. On a même pu comprendre et savoir d'où ces corps qui étaient enterrés provenaient. Donc, provenaient de Hombori. Donc, c'était encore un énième massacre qui était commis par Wagner plus l'armée malienne. Parce que là, on a parlé de Moura, on a cité quelques massacres avant, mais il y en a encore. Donc, il y a encore quelques jours, il y a encore eu un massacre dans le centre du Mali. Donc, on a pu travailler sur ce cas, et donc la manipulation était, on va dire, déjouée avant même qu'elle ne prenne.
Parce que ça, on peut dire...
Mais vous rendez compte des moyens qui ont été mis en place.
C'est évident, voilà. Mais ça mérite d'être précisé que on dit toujours Wagner, la France... Non, la différence, c'est que quand les Français, quand l'armée française se faisait des prisonniers parmi les djihadistes, ils les emprisonnaient, ils les transféraient à la justice. Wagner, de toute évidence, depuis l'année où ils sont là, quand ils prennent des gens, ils les exécutent et ils les enterrent à la
valise. Après, il y a eu aussi une autre séquence, hein, juste après ça, après Gossi, peut-être au même moment, hein, je parle de mémoire, il y a eu trois raids qui ont été arrêtés par les armées françaises. Et on a commencé à sentir aussi sur les réseaux sociaux un mouvement de dire, mais ils sont où ? C'est eux qui ont été enterrés à Gossi. Et donc là, on comprend que c'était un travail assez précis. Hein. Donc il y a même le fait que la France a commencé à déjouer la manipulation. Il y a eu encore un énième effort pour dire, on sait d'où les cadavres viennent, c'est les trois Français. Donc ce qui a obligé aussi l'état-major...
C'est les trois Français, quoi ?
Trois règles qui étaient arrêtées par les armées françaises. Ce qui a obligé les armées françaises, après, à dire, ils ont été libérés, voilà leur nom, leurs familles sont au courant, et ce qui a obligé les familles à se manifester. Et donc c'est tout un effort, on va dire, de réponse, donc de moyens, qui a été mis en œuvre pour contrer la séquence de Gossi et ce qui a suivi.
Maxime Audinet.
Oui, juste pour ajouter, c'est très intéressant ce qu'on voit que effectivement après donc toute cette opération de debunking menée avec l'aval de l'armée française, cet écosystème de la galaxie Prigogine a réagi. Tout de suite, on a vu des figures comme Maxime Chougaliai, qui est un des lieutenants de Prigogine, monter au créneau dans tous ces médias, y compris des médias d'ailleurs maliens, pour dire que finalement tout ça était un mensonge, une campagne de désinformation française, que c'était les Français qui étaient responsables. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit qu'il y a une asymétrie évidente en matière informationnelle de la part d'acteurs comme l'armée française d'un côté et puis de l'autre comme Wagner. C'est que un groupe comme Wagner fait un usage qui est systématisé du mensonge, qui est intrinsèque. Et donc pour réagir, c'est très facile, c'est-à-dire que vous pouvez toujours réagir en inventant un nouveau mensonge, en utilisant ce genre de pratique. Et c'est ce qu'on a vu se dessiner juste après Gossi, où il s'est agi de réagir. Il y a un autre aspect,
je sais plus comment c'est un effet connu, qui dit que ça prend toujours deux fois plus de temps de démonter une fausse information que de la donner, quoi.
Voilà, c'est ça. Et c'est là qu'il y a voilà, une différence. Alors, ce que je voulais juste aussi dire par rapport à l'aspect game changer de Gossi, c'est qu'effectivement, cette affaire de Gossi a été la première attribution par les autorités françaises de ce qu'ils ont appelé une attaque informationnelle. Et c'est pas rien, parce que ça fait quand même des années que la France est aussi en ligne de mire et la cible d'un certain nombre de ces attaques. Mais il y a traditionnellement une posture très prudente des autorités françaises en matière d'attribution. Donc ça a été voilà, très taiseux, et ça a été un moment important. Et puis c'est surtout que Gossi s'insère dans un moment plus large où les autorités françaises, d'abord à l'initiative de l'armée, choisissent de réinvestir très clairement le champ de l'influence. On l'a vu en octobre 2021 avec l'adoption de cette nouvelle doctrine dite de lutte informatique d'influence par le ministère des Armées, qui est une manière de dire justement que, certes, on se désengage partiellement du terrain au Sahel, notamment en Mali, mais on va rester beaucoup plus on va devenir beaucoup plus offensif dans cet espace informationnel qui est aussi considéré, et enfin, je dirais, enfin on en prend conscience, parce qu'il était temps, que c'est aussi un espace de conflictualité important. Et ce qu'on voit même se dessiner maintenant. On a vu il y a quelques jours que l'influence est devenue une fonction stratégique pour l'État français, que Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une stratégie d'influence nationale de la part de la France, ce qui montre aussi que voilà, la France se réengage sur ce champ de l'influence après des années où elle a assez peu investi cet espace et où elle l'a, je dirais, marginalisé. Mais c'est surtout qu'on voit que, en fait, les acteurs russes en Afrique, et notamment le groupe Wagner dans le cas du Mali, ont joué en fait un rôle d'accélérateur absolument considérable de cette prise de conscience française et de l'adoption en fait d'un certain nombre de moyens législatifs, institutionnels, opérationnels pour être plus offensif dans ce champ informationnel. Donc Gossi est très importante de ce point de vue parce que c'est peut-être la première manifestation visible de cette capacité française de réaction à travers cette opération de déconstruction d'une opération de désinformation menée par Wagner.
Ouais,
c'est aussi un vrai changement aussi de paradigme, hein, parce qu'il faut voir que cette séquence-là où donc, la France a accepté de dévoiler ses images et ses moyens pour la première fois est venue après les déclarations successives des Américains qui dévoilaient des informations classifiées concernant le conflit en Ukraine et le mouvement des Russes, etc., etc. Donc il y a un vrai changement de vision par rapport à ça. Mais il faut rappeler aussi que c'était la première fois aussi où la France était accusée directement, hein, mais aussi ça donnait le là de ce qui allait venir. Ça veut dire accuser la France de soutenir les djihadistes, etc., ce qui est la vieille recette, hein, qu'on a vue en Irak et en Syrie, où les Américains étaient accusés de soutenir l'État islamique par les mêmes milices sur le terrain, les milices chiites en l'occurrence en Irak, qui profitaient du soutien aérien américain pour contrer l'État islamique, et ça prenait dans la population parce que ça répond à des, on va dire, à des raccourcis, hein, on va dire, ou à des prédispositions à accepter ces fausses informations ou ces manipulations. Et on l'a vu au Mali et au Sahel en général, très concrètement, quand un convoi de Barkhane a été arrêté par trois fois au Burkina Faso et au Niger et à Terra, il y a eu mort d'homme quand même, parce que les gens qui arrêtaient le convoi de Barkhane pensaient que ce convoi de Barkhane allait ravitailler les djihadistes. Donc une conséquence réelle d'une fausse information à un niveau logistique très concret. Donc il y a eu cette prise de conscience, et comme quoi ce qui nous paraît très farfelu d'ici peut prendre au niveau des populations locales, et donc qu'il fallait faire un effort réel de sensibilisation, on va dire, ne serait-ce à ce que c'est l'activité, on va dire, française, mais aussi comment consommer cette information, comment vérifier une information, etc. Et que même ça ne suffisait pas, qu'il fallait être plus offensif, mais sans s'asseoir, on va dire, sur ses propres principes et faire de la propagande ou de la désinformation.
Maxime Nier.
Oui. Je voudrais juste ajouter à ce propos qu'effectivement, il y a des prédispositions que les Russes ont bien compris, et ce qui rend, au sein de l'opinion malienne, je veux dire, ce qu'on appelle parfois dans le discours politique français le fameux sentiment anti-français, qui en fait n'est pas un sentiment anti-français, c'est plutôt une forme de ressentiment, d'hostilité vis-à-vis de la présence militaire ou économique parfois aussi de la France dans cette région, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais de ce point de vue, je dirais que la production de récits ou de discours par les Russes et les Français, elle est aussi très asymétrique, parce que évidemment, côté français, cette production de discours est plombée par la question de la colonisation, qui est l'élément central qui nourrit, je dirais, qui alimente ce sentiment d'hostilité vis-à-vis de la France. Et puis côté russe, c'est une force énorme, c'est-à-dire que il s'appuie à la fois effectivement sur cette question d'un soutien supposé de la France au djihadistes, qui est lié, je crois, à la question de l'action de Barkhane dans le nord du pays, qui est, j'ai l'impression, est quelque chose aussi d'originel qui a nourri ce sentiment-là. Mais il y a aussi un élément central qui est justement cette réactualisation par les acteurs russes du soutien soviétique dont on a parlé tout à l'heure à un certain nombre d'États dans leur mouvement de décolonisation, dans leur mouvement d'émancipation et de libération nationale, et qui est lié à un discours extrêmement hostile vis-à-vis de la présence coloniale puis néocoloniale de la France. Et de ce point de vue, c'est vrai que les Russes ont, disons, une longueur d'avance, parce qu'ils peuvent s'appuyer sur un sentiment préexistant qui est très répandu au sein de la population malienne. Je voulais juste donner un chiffre que j'avais trouvé assez stupéfiant d'un sondage Gallup qui était sorti, qui avait été mené entre la fin, je crois entre novembre 2021 et janvier 2022, et qui montrait que le Mali, avec 82% d'opinions positives, était le pays au monde où la Russie où le sentiment vis-à-vis de la Russie était le plus favorable, devant un certain nombre d'États d'Asie centrale, notamment le Kyrgyzstan. Parce qu'il y a justement tout ce souvenir, cette exploitation mémorielle qui est très investie et sur lequel le groupe Wagner arrive assez facilement à se greffer, en disant que finalement ils vont aider à ce... Prigogine a parlé d'une nouvelle ère de décolonisation, il a qualifié Assimi Goïta de Che Guevara africain en le comparant à Thomas Sankara au Burkina Faso. Et donc on voit bien qu'il y a cette facilité, cette volonté de mobiliser ce discours qui est assez porteur et qui peut fonctionner.
Ça, on peut dire l'association entre français et soutien aux djihadistes, enfin, on en a déjà parlé à ce micro, Wassim, mais c'est notamment le fait que la France s'est appuyée à un certain moment sur des organisations plus ou moins indépendantistes du nord du Mali. Et que du coup, ça, pour lutter justement contre les groupes djihadistes, et que du coup, du point de vue de Bamako et du Sud, ça a été pris comme un soutien à des forces autonomistes, indépendantistes, et que par capillarité, c'est devenu les Français soutiennent les djihadistes. Mais simplement, juste pour rester là-dessus, il faut peut-être aussi élargir un peu et inscrire tout ça dans un cadre régional, parce qu'on l'a dit, c'est pas le seul pays dans cette dynamique, le Mali. Il y a eu un coup d'État au Burkina Faso, il y en a eu un au Tchad, même si c'est pas exactement dans ce sens-là, il y en a eu un au Soudan aussi, etc. Donc voilà, est-ce qu'il y a des convergences, et au-delà des convergences, est-ce qu'on peut parler de stratégie globale de la Russie dans la région, ou est-ce qu'on reste encore à l'heure actuelle au coup par coup? Alors je veux dire, juste dans la rhétorique, bon, il semblerait qu'il y a quelque chose. En lisant votre étude avec Emmanuel, Maxime, je disais que Prigogine faisait des posts sur le temps des colonels qui est venu dans la région avec Goïta, etc. Bon,
oui, mais ça coûte pas cher, j'ai envie de dire. Ça coûte pas cher, c'est un moindre coût. Et ça n'engage même pas l'État russe. Donc c'est ça aussi. Aujourd'hui, la Russie, elle utilise un moyen informel qui est Wagner et la voix de Prigogine pour essayer. Donc encore une fois, même si on a dit ou j'ai dit, et je pense que le Mali était une décision stratégique, il ne faut pas voir non plus tous les coups d'État en Afrique comme s'ils étaient fomentés à Moscou. Hein. Ça veut dire le surcoup d'État, le deuxième coup d'État qu'on a vu au Burkina, Moscou n'était pas derrière. Hein, mais Moscou a profité de cette vague. Et juste pour donner un petit peu de détails qui expliquerait mon propos, les raisons qui ont mené au premier coup d'État donc, et à l'arrivée du lieutenant-colonel Damiba au pouvoir sont les mêmes qui ont mené au deuxième. Donc, mécontentement de l'armée face à l'inefficacité, on va dire, de la guerre contre les djihadistes. Des militaires ne sont pas contents. Ils font un coup d'État. Il faut rappeler aussi que le colonel Damiba a fait son premier voyage aussi au Mali pour voir Assimi Goïta. Et son arrivée au pouvoir a été aussi saluée par Prigogine. C'est pas pour autant que Damiba avait rejoint, on va dire, le camp russe. Après, pour être aussi très précis sur la séquence burkinabé, quand le capitaine Traoré a pris la télévision, il n'était pas si sûr de son coup. Le seul moyen d'empêcher Damiba de revenir et de reprendre le pouvoir, c'était de faire appel à la rue. Et quel est le meilleur moyen catalyseur le plus facile de la rue ? La France. Les gens descendent dans la rue parce que c'est anti-français, drapeau russe, 2-3 drapeaux russes dans la manifestation.
Un ou deux portraits de Sankara.
Voilà, l'affaire est bouclée. Mais le but de Traoré, c'était d'empêcher Damiba de revenir.
En disant que Damiba était
sur la base française. Oui, sur la base française, ce qui n'était pas tout vrai. Et la France était dans une position, je peux vous le dire, on n'a même pas essayé de faire voler des mini-drones pour surveiller la foule autour de l'ambassade, pour ne pas être accusé d'interférer. Et donc la séquence s'est faite comme ça. Et donc il y a eu des drapeaux russes dans la rue, il y a eu cette animosité vis-à-vis de la France qui a été jouée par Traoré, mais parce qu'il était dans une position de faiblesse. Et ce qu'il a rejoué encore quelques jours plus tard avant d'être confirmé. Mais entre les deux séquences, il a donné une interview à France 24, etc. Il a dit non, on ne pense pas que Damiba est protégé par les Français, on ne pense pas que la France est impliquée dans cette affaire. Mais parce qu'il avait eu ce qu'il voulait. Donc même si la décision pour le Mali était stratégique, il ne faut pas non plus surestimer les capacités et l'implication de Moscou dans tout ce qui se passe, et en l'occurrence, ce deuxième coup d'État au Burkina Faso.
Ouais, Maxime Nina. Et tout à fait, je voulais ajouter qu'en fait, il faut bien comprendre que Prigogine, c'est quelqu'un qui excelle dans la façon de capitaliser sur les représentations qu'on va renvoyer sur ses propres actions, quitte à les exagérer. C'est quelqu'un qui ne cesse de se présenter comme celui qui a fait élire Donald Trump aux États-Unis, alors qu'on sait que les conséquences des opérations menées par l'IRA sont infimes, sont même quasi inexistantes.
Donc l'IRA a pensé l'Internet Research Agency
dont on parlait tout à l'heure, donc il y a un consensus pour dire que les effets sont très marginaux.
Je veux dire, c'est pas les indépendantistes nord-irlandais.
Voilà, oui, bien sûr. De la même façon, là, on voit qu'en ce moment, Wagner est en train de sortir de l'ombre. Prigogine dit que voilà, il est derrière les ingérences, qu'il a fondé Wagner. Il est en train d'affirmer tout ça, et donc il faut bien comprendre que
il est en train de devenir ministre de la Défense prochainement.
Il est très critique du ministre de la Défense, ce qui montre aussi que il y a évidemment, et c'est ça tout l'intérêt d'un acteur comme Wagner, c'est que c'est un acteur qui, à la fois, effectivement, et soutenu logistiquement par l'État russe, et il ne pourrait pas exister sans l'État russe, et il soutient d'ailleurs son agenda là où l'État ne souhaite pas s'engager, mais il y a en même temps aussi, de la part de quelqu'un comme Prigogine, des logiques très opportunistes, très, très personnelles, qu'on voit bien se dessiner en ce moment avec l'Ukraine, où il se permet de critiquer directement Shoigu, le ministre de la Défense, des hauts gradés, etc. Donc il y a ces deux aspects qui sont imbriqués. Mais ce que je voulais juste dire, c'est qu'il faut bien comprendre que plus on parle du rôle de Wagner, de Prigogine, etc., plus lui, y compris en mal, et d'ailleurs le plus souvent c'est en mal, plus lui en profite, parce que c'est ça, cette logique entrepreneuriale, c'est de pouvoir montrer qu'en fait, ils ont, même si les effets sont minimes ou sont assez peu importants, ils ont une présence informationnelle, médiatique qui est absolument considérable. Et je pense notamment au cas de ces drapeaux russes. C'est vraiment le cas emblématique parce qu'aujourd'hui, alors même que la Russie mène une guerre d'agression et a envahi l'Ukraine, a annexé des territoires, au même moment, on observe des gens qui brandissent des drapeaux russes comme symbole d'émancipation nationale, ce qui est assez paradoxal. Et d'ailleurs, on voit, parce que ça, c'est aussi ce que Wassim Nasr disait tout à l'heure, c'est qu'on voit que le fait de brandir un drapeau russe est un appât à caméra, est un appât à chaque fois. En fait, on va prendre des photos, ça va finir dans les... Je me souviens des manifestations à Ouagadougou, justement. Les photos avec des drapeaux russes ont été placées sur la une de tous les médias, alors même que finalement cette, cette revendication d'une coopération avec la Russie, elle n'était pas dans les principales revendications. Elle arrivait peut-être en cinquième ou sixième place, je crois. Enfin, c'était pas ce qu'il y avait de plus important. Mais dans ce contexte-là, il faut bien comprendre que ces acteurs russes capitalisent sur ce genre de représentation d'une Russie qui reprend pied, qui est derrière tous ces phénomènes, qui fomente n'importe quel mouvement qui va émerger. Et dans ce contexte aussi d'hostilité vis-à-vis de la France. Et ça, c'est important de comprendre que Prigojine, c'est son moteur, ce type d'action.
Mais selon les principes bien connus en communication, notamment politique, que déjà il n'y a pas de mauvaise publicité, et que par ailleurs, une information fausse est avant tout une information qui a été donnée deux fois. Cette information fausse est démentie, une information donnée deux fois. Mais justement, puisque vous parliez de l'Ukraine, on peut peut-être juste essayer de faire rapidement une passerelle et se demander quelles sont les conséquences de l'Ukraine, puisqu'on voit évidemment Wagner largement investi en Ukraine, qui s'en sortent inégalement, disons, là-bas, en tout cas plutôt mieux que l'armée russe, le gros de l'armée russe. Et surtout sur les conséquences que ça a, parce qu'on peut mentionner quand même que le Mali s'est abstenu à la résolution des Nations Unies condamnant l'agression russe, donc il y a aussi des intérêts au stade de la politique internationale à ces investissements. Donc voilà, simplement, quelles conséquences, puisque tout ça s'est passé un peu au même moment, hein, c'est quand même février-mars 2022, voilà, quelles sont, disons, les passerelles et les conséquences d'un théâtre, évidemment beaucoup plus ouvert, beaucoup plus violent, etc., sur l'autre je sais pas.
Il y a eu beaucoup de rumeurs sur un désengagement de Wagner au profit du Mali et d'Afrique en général au profit de l'engagement en Ukraine, mais ça reste, à mon humble avis, on reste au niveau des rumeurs, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le meilleur des troupes qui est engagé au Mali, donc quel serait leur vrai apport en Ukraine? Voilà, donc l'effet recherché au Mali, c'est de planter le drapeau. C'est pas vraiment de combattre les djihadistes. En tout cas, ça n'a pas d'effet pour le moment. Wagner a eu des morts, a eu des captifs. Et pour faire une petite digression, les zones investies ou par Acmi aujourd'hui et le Jnim au Mali, donc Sikasso, la frontière avec le Sénégal, il n'y a pas d'opération de Wagner. Ce sont les zones les plus dangereuses pour les pays limitrophes. Il n'y a pas d'opération des FAMA. Donc on est vraiment dans une opération de « on plante le drapeau et on essaye ». Mais ce ne sont pas ces forces-là qui feront la différence, en tout cas, en Ukraine.
Alors après, il y a une question de stratégie des moyens. J'ai appris en vous lisant, Maxime Audinet, que RT France, qui vit des moments compliqués depuis 8 mois maintenant, c'était maintenant réappelé, renommé RT Afrique, ce qui est symboliquement intéressant, c'est-à-dire des moyens qu'ils investissaient auparavant sur le champ informationnel français, qui évidemment là, bon, il va y avoir des rendements décroissants pour le moins, peuvent être redéployés à destination du public plutôt d'Afrique francophone.
Alors, on les confond souvent, mais c'est Spoutnik qui s'est renommé Spoutnik Afrique, mais c'est pas grave, c'est le même principe. En fait, c'est vrai qu'on a vu depuis l'invasion de l'Ukraine que ces médias ont été suspendus, la diffusion de ces médias a été suspendue au sein de l'Union européenne.
Rappelons, je suis désolé, mais juste que RT, c'est la chaîne, et Spoutnik, c'est l'agence de presse,
voilà, l'agence d'information. Voilà, donc en fait, c'est ce binôme qui fait partie de l'audiovisuel extérieur de la Russie, qui vise à communiquer donc avec des audiences à l'étranger. Donc le règlement du Conseil de l'Union européenne du 2 mars a suspendu la diffusion de ces médias, non pas la production, ce qui est important. Donc RT France continue à produire des contenus en France, mais effectivement on voit un phénomène qui était déjà en germe depuis plusieurs années, mais qui consiste du coup à trouver de nouveaux débouchés informationnels, parce qu'il faut bien que ces médias aussi justifient tout simplement leur rôle auprès de l'État actionnaire russe. Il faut montrer quand même qu'ils servent à quelque chose, et donc il faut trouver de nouveaux bassins d'audience. Et de ce point de vue, effectivement, l'Afrique francophone est un bassin d'audience absolument considérable, et on voit que ce processus s'accélère. RT France semble un peu hésiter parce que ils ont quand même une présence, ils ont des employés, ils ont une centaine d'employés en France, donc il faut aussi continuer un petit peu en incitant au téléchargement de VPN, en créant des sites miroirs, à essayer en fait de continuer de conserver des audiences, notamment en France, en Belgique et en Suisse. Mais Mais on voit aussi que ce phénomène d'expansion en Afrique est en train de s'accélérer. Le meilleur exemple, c'est Spoutnik, effectivement, qui a arrêté de produire des contenus entre le mois de mars et le mois de juillet. Le bureau parisien de Spoutnik France a été placé sous liquidation judiciaire. Tout s'est recentralisé à Moscou et ils ont fait peau neuve. Et depuis, effectivement, juillet 2022, il s'appelle maintenant Spoutnik Afrique, avec une volonté très claire de cibler les audiences africaines, de produire davantage de contenu sur l'Afrique, ce qu'on voit très bien sur le cas malien. Et on voit que, parallèlement à ça, ils connaissent une croissance. Alors, ils ont connu une chute radicale de leurs audiences considérables. Spoutnik est passé de 13 millions de visites à 1 million après leur suspension. Mais on voit qu'il y a une nouvelle croissance qui est en train de se dessiner avec des pays, en particulier comme le Burkina Faso, qui ressortent et qui sont très clairement dans ces audiences. Je voulais juste dire une toute petite chose par rapport à la question de l'Ukraine aussi vis-à-vis de Wagner. C'est que... on voit qu'effectivement Wagner a une place importante dans le Donbass. On voit que Wagner met en place des pratiques complètement ahurissantes qui relèvent de son modèle aussi, par exemple en recrutant des prisonniers qui sont envoyés en première ligne. Et en même temps, il y a eu effectivement au début cette idée de est-ce que les contingents de Wagner en Afrique vont être déployés. Alors je crois que ça a été le cas en Libye, un petit peu en RCA, mais très vite ils sont revenus. Pourquoi ? Parce que, et c'est là que je répète, la logique opportuniste et entrepreneuriale de ce réseau-là est importante, c'est que la RCA en particulier, Wagner a intérêt à conserver une présence de ces mercenaires pour à la fois protéger Bangui. On voit qu'ils sont beaucoup moins actifs pour aller en province, etc. Et puis surtout pour protéger les gisements, les forêts. Et parce que plus ils restent longtemps, plus ils pérennisent cette présence, plus ils conservent, ils noyautent le pouvoir, plus ils peuvent capter ces ressources qui financent l'ensemble de ce réseau. Donc il faut continuer en fait à alimenter ça. Et de ce point de vue, il n'y a pas forcément un effet de vase communicant entre l'Afrique et l'Ukraine. Et d'ailleurs, je voulais juste mentionner un autre petit exemple qui me semble intéressant. C'est tout l'enjeu qu'il y a eu autour des exportations de blé ukrainien vers l'Afrique, que la Russie a un temps bloqué, qu'il y a eu des négociations, etc. Ça, c'est aussi, je crois, un élément assez crucial sur lequel les Russes font très attention et où on voit c'est l'Ukraine et l'Afrique, ces deux situations qui se juxtaposent. C'est parce que les Russes essaient effectivement d'accuser les Ukrainiens d'être responsables. Et on voit aussi toute une activité intéressante se mettre en place côté ukrainien, qui déploie depuis le début de la guerre une communication très offensive, même très créative à certains égards, je pense notamment au compte Twitter du ministère de la Défense, où il y a un enjeu aussi d'influencer, alors avec des capacités qui sont beaucoup moins importantes, puis ils se concentrent surtout sur des audiences occidentales, parce qu'il faut bien, maintenir ce soutien, notamment en matière de livraison d'armement, mais ils se concentrent aussi sur les audiences africaines, où on a vu Zelensky discuter avec certains leaders africains pour expliquer que, mais en fait, ce sont les Russes qui sont derrière et qui peuvent causer potentiellement des risques de famine extrêmement important dans cet espace. Donc voilà un autre exemple de juxtaposition de ces deux théâtres.
Et enfin, pour terminer, j'aurais aimé donc vous interroger rapidement sur les perspectives à long terme, même si évidemment on ne fait pas de la prédiction. Alors il y a un succès politique réel, en tout cas dirait-on dans un premier temps. Il y a en mars-avril le Malimètre, on en parlait dans la précédente émission avec Maxime, parce que j'adore le nom du Malimètre. Donc il y a un observatoire, disons, de l'opinion malienne. 92% en mars-avril des Maliens disaient faire confiance à la Russie pour restaurer l'intégrité territoriale du pays. 73% se déclaraient insatisfaits de Barkhane. Bon, ils sont exaucés. 83% estimaient que le retrait français aurait des conséquences positives sur l'environnement sécuritaire. Ils vont voir très vite. Mais donc, est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, en même temps, c'est un sondage qui a 6 mois maintenant, qui commence à se fissurer, ou est-ce que ça vous paraît bien? Parce que, en fait, si on considère que c'est en partie en raison des impasses de Barkhane et de ses difficultés à obtenir une victoire durable que les Russes sont là, il va y avoir évidemment une sorte de juge de paix qui sera l'efficacité des Russes, des FAMA âge augmenté de Wagner face au groupe djihadiste. Donc voilà, est-ce qu'on pense que ça c'est viable ou que ça commence déjà à se fissurer, peut-être, Wassim Nasr?
Déjà, les zones où s'est déployé Wagner, donc particulièrement le centre, en payent le prix en ce qui concerne les populations civiles. Donc eux, ils connaissent très bien quelle est la valeur ajoutée, entre guillemets, de Wagner. ceux qui travaillent avec Wagner sur le terrain, c'est deux qu'on tient les informations sur l'équipement qui n'est pas bon et sur l'efficacité piètre de ces combattants, sans parler de ce qui vient du côté des djihadistes en termes de revendications, d'attaques, d'opérations, que ce soit Al-Qaïda ou l'État islamique. Mais même aujourd'hui à Bamako, il y a des voix qui commencent à s'élever en disant voilà, les résultats ne sont pas là, la situation s'aggrave et qui commence à demander des comptes aux autorités maliennes. Donc il y a la perception des choses et puis il y a la réalité. Et in fine, la réalité perce finalement les perceptions. Donc je ne dirais pas aujourd'hui qu'il y a une opinion qui est aussi tranchée vis-à-vis de Wagner que ce fut le cas pour Barkhane avant le départ de Barkhane, mais les gens commencent à se poser des questions, que ce soit au niveau des journalistes maliens, que ce soit au niveau de la société civile, mais aussi au niveau politique. Il y a des voix qui s'élèvent et qui disent attention, on ne va pas dans le bon sens et Wagner n'amène pas de solution. Et même quand on parle, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, des pays limitrophes qui commencent à sentir le danger djihadiste et en particulier donc Acmi et Jnim, ils voient que les autorités maliennes ne font rien pour endiguer cette menace. Donc là aussi, il y a des questionnements et il y a des pressions qui sont exercées. Donc sans avoir, on va dire, des capacités de prédiction surnaturelles, on va dire, mais in fine, toujours le réel arrive à percer les perceptions.
Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense aussi que, justement, cette présence russe, elle va au-delà de Wagner, et c'est une des grandes forces aussi de cette influence russe, notamment quand elle s'appuie justement sur tout ce discours anti-néocolonial, anti-interventionniste, qui est un sentiment qui est en forte croissance au sein des opinions sahéliennes en particulier. Et ça, ils pourront toujours continuer à se greffer sur ce discours-là, quels que soient en fait les effets réels du groupe Wagner au sein de ces sociétés. Après, effectivement, on a longtemps pensé la même chose dans le cadre de la RCA, où en fait les territoires où Wagner a commis des exactions ont vu en fait l'opinion vis-à-vis de la Russie chuter, et pourtant Wagner est toujours là, pourtant il continue parce qu'ils arrivent aussi à maintenir cette influence, ce noyautage. Donc c'est très compliqué. Je pense que l'un des cas intéressants, c'est aussi le Burkina Faso, parce que justement on voit que le groupe Wagner n'est pas présent, ou en tout cas il y a eu des émissaires, des poissons pilotes qui ont été envoyés un petit peu pour sonder tout ça, mais il n'est pas présent sur le territoire. Et pourtant, on voit se développer une présence de discours, de récits favorables à la Russie qui sont extrêmement importants et qui pour
l'instant... la phase préparatoire dont on parle.
Oui, mais après, au Burkina, il y a le recul malien. Donc aujourd'hui, quoi qu'on dise, il n'y a pas de résultat positif de Wagner au Mali. Les résultats ne sont même pas neutres, ils sont plutôt négatifs. Donc il y a cet élément à prendre en compte aussi par rapport à ce qu'on peut imaginer au Burkina. Il y a aussi la séquence ukrainienne vis-à-vis de la Russie, en gros, où les gens voient que la Russie n'arrive pas à avoir des résultats militaires escomptés au début des opérations. Et ça, ça a son impact et ça a son poids aussi dans la perception dont on parlait.
Et voilà, et juste pour terminer, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi, comme on l'a dit, des acteurs officiels qui sont impliqués, la Russie, que ce soit par des moyens hybrides ou par des moyens officiels, agit à plus long terme avec des ambitions importantes, et notamment en matière de séduction. Je crois que c'est important de comprendre que l'Afrique, contrairement à ce qu'on a pu observer de la part des opérations d'influence russe vis-à-vis des pays occidentaux, c'est que la question de la séduction est au cœur. On sait que la Russie est très critique de l'Occident libéral, que toutes ces opérations d'influence, elles visent d'abord à dénigrer, à déconstruire. Là, en Afrique, on a une opération de séduction, presque parfois de ce qu'on appelle un peu le soft power, et qui vise tout simplement à s'attirer le soutien à long terme de ce que les Russes qualifient du non-Occident, ce que les Russes appellent le Niezapad, c'est-à-dire en fait tous les pays non-occidentaux, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, en nazis qui peuvent soutenir, comme c'est le cas par exemple à l'Assemblée des Nations Unies, qui peuvent soutenir la Russie dans cette volonté aussi de concurrencer l'Occident et de concurrencer les puissances occidentales. Et ça, de ce point de vue, la Russie a encore des ressources au-delà de Wagner vis-à-vis de l'Afrique, et qui est là encore un réinvestissement de toute cette influence soviétique dans la région, avec l'idéologie marxiste-léniniste en moins.
Il y a aussi un aspect important qui peut contenter, on va dire, certains pouvoirs en Afrique, c'est que la Russie n'en demande pas trop au pouvoir en place. Voilà. Ça veut dire, quand c'est en matière anti-djihadisme ou anti-terrorisme, voilà, les droits de l'homme, ça passe au second plan et c'est assumé. Et quand c'est en matière de pratique démocratique, on ne demande rien. Quand c'est au niveau des questions qui préoccupent en Occident, comme la parité, comme le genre, etc., on ne demande rien aux autorités africaines. Et ça, d'une certaine manière, contente certaines autorités africaines qui sont aujourd'hui peut-être alliées à la France. Donc c'est aussi cette facilité-là de dire, on va aller du côté de la Russie. La Russie ne nous demande rien, ne nous exige rien pour nous aider, pour être de notre côté, comme c'est le cas des puissances européennes ou de la France en l'occurrence. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Donc je vais rappeler que, Maxime, donc je vais rappeler votre étude. Donc l'étude de l'IRSEM numéro 97, intitulée « La Russie au Mali, une présence bicéphale que on peut télécharger sur le site de l'IRSEM ». Puis Wassim, je vais rappeler vos interventions multiples sur France 24, et puis aussi le travail de veille très important que vous faites sur la région, notamment sur votre compte Twitter, qui est tout à fait un must follow pour qui que ce soit.
Merci.
Qui s'intéresse à la région et au djihadisme. Merci. En général. Enfin, et pour terminer cette émission, je voudrais dire un mot d'un sujet qui est bon, un peu de la cuisine interne à l'IRSEM, mais enfin c'est vraiment important pour le podcast. Et donc, signaler à ceux qui ne le sauraient pas encore que Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, le directeur de l'IRSEM, nous quitte malheureusement ces jours-ci. Alors il n'est pas apparu souvent dans le podcast, et pourtant Dieu sait qu'il était compétent sur bien des sujets, depuis la théorie des relations internationales jusqu'aux analyses de films et de séries, et il s'est donc continuellement dérobé depuis plus de 3 ans malgré mes demandes répétées, mais c'est ce qu'il ne voulait pas se mettre en avant dans le podcast, ce que j'ai fini par accepter. Il est quand même passé dans un épisode, celui consacré à son rapport sur les opérations d'influence chinoise avec Paul Charron, qui a d'ailleurs été un épisode très écouté, puis plus généralement je crois que ce rapport est un travail vraiment important, qui fait référence et qui est l'un des grands moments forts de son mandat à la tête de l'IRSEM, mais il y en a eu beaucoup d'autres, et je veux dire, je pense qu'il a profondément transformé l'Institut, et qu'il en a fait un centre de recherche puissant et visible à l'échelle française et internationale, ce qui est un succès, je crois, remarquable. Plus directement, et pour ce qui concerne le podcast, alors les auditeurs de la première heure le savent, mais Jean-Baptiste est vraiment à la fois l'un des pères fondateurs et la bonne fée du collimateur. C'est lui qui a accueilli le projet du podcast, avec Jean-Vincent Hollandre, le directeur scientifique de l'IRSEM, qui a achevé son mandat aussi récemment, qui nous quitte aussi. C'est Jean-Baptiste qui l'a porté, qui l'a guidé aussi tout le long, et c'est vraiment l'autre artisan essentiel du podcast, puisque c'est avec lui et grâce à son aide qu'on a pu faire cette programmation de ces dernières années. Bref, c'est l'euphémisme du siècle que de dire que le collimateur n'existerait pas sans Jean-Baptiste, et c'est vraiment l'autre moitié du podcast qui s'en va ces jours-ci, et je tenais donc à lui rendre hommage. Alors naturellement, j'ai fait ce que j'ai pu pour le convaincre de rester, mais enfin, il s'avère qu'il part pour prendre des fonctions assez différentes, puisqu'il devient notre ambassadeur de France au Vanuatu et aux îles Salomon, et je veux dire qu'en termes de conditions de vie, j'avais un peu de mal à lui faire sérieusement l'éloge de Paris et de l'école militaire comparée aux îles du Pacifique Sud. Bien sûr, c'est pas les vacances non plus, il y a une cohérence à tout ça, notamment dans l'intérêt croissant de la France pour l'Indo-Pacifique, et c'est un très beau poste qu'il prend, et pour lequel toutes les félicitations sont de rigueur, même si pour le dire de manière très transparente, il est très évident que ça m'emmerde de le voir partir. Alors, évidemment, il va pas y avoir de grandes conséquences directes sur le podcast du point de vue des auditeurs, puisque la suite et l'intérim vont être pris par Marjorie Van Bellingham, la directrice adjointe de l'IRSEM, que les auditeurs connaissent, parce qu'elle est venue il y a quelques semaines dans le podcast, nous parler du rapport du Japon à l'armée et aux faits guerriers. Et donc tout ça devrait se passer très naturellement et fluidement, et on lui souhaite évidemment beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Bref, chez moi, dans les cas comme ça, on souhaite aux partants bon vent et belle mer, et je crois que ça colle assez bien pour Jean-Baptiste et pour cette destination en particulier. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont appréciés, comme notes et appréciations sur SoundCloud, sur Apple Podcasts, etc., etc. C'est toujours très utile d'avoir ces retours, et ça aide grandement aussi à la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.